Signe. RFI, il est minuit, ici à Paris, 23h en temps universel. Il est l'une des voix de la nuit sur RFI et j'ai l'honneur d'annoncer pour le journal Antoine Galen. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. À la une, Volodymyr Zelensky a surestimé ses atouts en main. C'est ce que déclare Donald Trump après sa violente altercation avec son homologue ukrainien à la Maison-Blanche. On fait le point en début de journal. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'inquiète des coupes budgétaires américaines. Les conséquences pour les ONG du monde entier pourraient être dévastatrices. Dans ce journal également, mobilisation massive en Grèce, 2 ans après le plus gros accident ferroviaire du pays. Et puis la Chine a manqué un objectif climatique important en 2024. Ses émissions de carbone sont en hausse. Clash à la Maison-Blanche devant les caméras. Donald Trump a accusé Volodymyr Zelensky d'avoir manqué de respect aux États-Unis. Une joute verbale particulièrement virulente alors que les deux dirigeants devaient signer un accord sur les minerais ukrainiens. Conséquence, la réunion s'est terminée prématurément. RFI Washington, Guillaume Nodin.
Volodymyr Zelensky est parti sans signer l'accord sur les terres rares et les minerais ukrainiens et sans donner de conférence de presse. Toute explication est en effet inutile. Son accueil dans le bureau ovale et devant la presse a tourné à l'affrontement verbal avec une intensité inimaginable. Donald Trump a dit qu'un accord qu'il négocie directement avec la Russie était possible. Volodymyr Zelensky a alors expliqué qu'aucun compromis n'était possible avec Vladimir Poutine, qu'il qualifie de tueur. Le président américain a répondu que pour trouver un accord, il faut faire des compromis. C'est là que la conversation est devenue très tendu. Donald Trump et son vice-président J.D. Vance s'en prenant à Volodymyr Zelensky, accusé de manquer de respect et de gratitude envers les États-Unis. Le président américain a alors exigé la conclusion d'un accord, faute de quoi son pays laisserait tomber l'Ukraine purement et simplement, et que cela n'allait pas être beau à voir. Les médias ont alors été escortés en dehors du bureau ovale. Quelques minutes plus tard, Volodymyr Zelensky est sorti à son tour. La Maison-Blanche fait savoir que c'est bien elle qui a mis fin à la rencontre et que le président ukrainien pourra revenir quand il sera prêt à faire la paix. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Et les réactions se sont enchaînées. Vous ne serez jamais seul. Les mots de l'Union européenne à l'encontre du président ukrainien. De son côté, la Russie déclare que pour la première fois, Trump a dit la vérité face aux clowns cocaïnés. Pour Emmanuel Macron, si quelqu'un joue à la Troisième Guerre mondiale, il s'appelle Vladimir Poutine. La deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza aura-t-elle bien lieu? L'inquiétude est de mise car la première phase se termine le 1er mars. Le Hamas appelle ce vendredi à faire pression sur Israël pour faire commencer la deuxième phase de l'accord qui doit débuter dimanche. Pendant ce temps, les médiateurs sont actuellement réunis au Caire pour négocier. L'accord sur le cessez-le-feu et la libération des otages israéliens doit tenir. Ce sont les mots du patron de l'ONU, Antonio Guterres. Le secrétaire général des Nations Unies, toujours, a également exprimé sa profonde inquiétude face aux coupes budgétaires américaines. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'aide humanitaire est en souffrance. Pour Antonio Guterres, ces réductions drastiques auront un impact colossal sur les programmes des Nations Unies et des conséquences dévastatrices dans le monde entier.
En Afghanistan, plus de 9 millions de personnes ne bénéficieront plus de services de santé car des centaines d'équipes sanitaires mobiles ont été suspendues. Dans le nord-est de la Syrie, où 2,5 millions de personnes ont besoin d'aide, la fin du financement américain va entraîner une augmentation conséquente de la vulnérabilité de la population. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime sera lui aussi contraint d'interrompre bon nombre de ses programmes de lutte contre les stupéfiants, y compris celui qui lutte contre la crise du fentanyl. Il va devoir réduire considérablement ses activités de lutte contre le trafic d'êtres humains. Enfin, le financement de nombreux programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et le choléra a été interrompu. Si l'on continue avec ces réductions, le monde sera moins sain, moins sûr et moins prospère.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. 3 morts à La Réunion après le passage du cyclone Garance. 5 personnes ont également été blessées. L'île française de l'océan Indien est toujours en état d'alerte rouge jusqu'à samedi, 10h heure locale, 7h heure de Paris. D'ici là, la population est toujours confinée. Après des rafales de vent à plus de 230 km/h, l'alerte violette la plus élevée a été levée. En fin de journée, plus de 180 000 foyers étaient toujours sans électricité et près de 170 000 sans eau. En Serbie, les étudiants sont furieux. Depuis des semaines, ils sont des centaines à sillonner tout le pays à pied. L'objectif, apporter leur colère dans les bastions ruraux acquis au président. Les manifestations ont débuté après un dramatique accident dans une gare qui a fait 15 morts le 1er novembre à Novi Sad. Un événement qui a catalysé la colère de la population serbe à l'égard de la corruption. Plusieurs hauts responsables ont démissionné, dont le premier ministre Milos Vucevic. C'est le plus grand mouvement de contestation serbe depuis les années 90. Une autre manifestation ce vendredi, c'était en Grèce. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour demander des comptes à leur gouvernement. Il y a 2 ans, le plus gros accident ferroviaire du pays avait lieu. Les manifestants accusent le gouvernement de mentir sur les causes du drame. Correspondance Nadia Beltri.
À Athènes, une marée humaine a convergé place Syntagma, devant le Parlement. Parmi eux, de très nombreux étudiants, comme Orestis Befanis, 25 ans, qui 2 ans après le plus gros accident de train de l'histoire du pays, est en colère contre son gouvernement, qu'il soupçonne d'avoir dissimulé la vérité sur le drame ferroviaire pour cacher ses responsabilités.
Le gouvernement a menti à propos de ces meurtres et nous on est là pour dire ça suffit les mensonges. On est là pour dire qu'on veut que justice soit rendue à ces 57 personnes et à leurs familles et à tous ceux qui utilisent tous les jours les transports publics. Dans ce pays, on ne peut plus respirer. Nous, notre génération qui avons entre 18 et 25 ans, on n'a pas d'autre choix que de quitter le pays ou de s'unir et de lutter ensemble pour vivre dans une meilleure Grèce et une meilleure Europe.
Plus jamais ça, pouvait-on aussi entendre dans les rangs des manifestants. Les citoyens grecs, tous âges et toutes professions confondues, sont venus exiger des comptes. Ils fustigent la corruption, les mensonges, les défaillances de l'État qui ont abouti il y a 2 ans à un tragique accident que beaucoup n'hésitent pas à qualifier de crime. Nadia Bletri, Athènes, RFI.
En France, c'est le moment du dialogue entre les partenaires sociaux. Les mots d'Emmanuel Macron au sujet d'un potentiel référendum sur les retraites évoqués par François Bayrou. Le syndicat Force Ouvrière a claqué la porte des discussions ce jeudi et dénonce l'impossibilité de revenir sur le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Le syndicat CGT appelle à une mobilisation à partir du 8 mars pour gagner l'abrogation de la réforme des retraites porté en 2023 par Elisabeth Borne. L'Inde et l'Union européenne veulent un accord de libre-échange avant la fin de l'année. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite en Inde, s'est mise d'accord avec le Premier ministre indien, Narendra Modi. Les pourparlers durent depuis plusieurs années, mais ils se sont accélérés depuis l'annonce des droits de douane américains. La Chine a manqué un objectif climatique important en 2024. Ses émissions de carbone ont connu une légère hausse. C'est ce que révèlent des données officielles publiées ce vendredi. Plus que les émissions en soi, les analystes se sont surtout intéressés à un autre indicateur, l'intensité carbone. Pékin est en retard sur cet engagement de l'accord de Paris, les précisions de Pauline Glaise.
L'intensité carbone de l'économie, c'est le rapport entre les émissions de gaz à effet de serre et le produit intérieur brut. Cela permet par exemple de comprendre si une baisse ou une hausse des émissions est liée à la conjoncture économique ou à une production plus ou moins propre. L'intensité carbone de la Chine a bel et bien baissé de 3,4% l'an dernier. Le hic, c'est que l'objectif officiel était de la réduire de 3,9%. Résultat, Pékin prend du retard sur ses prévisions 2020-2025 et selon un expert, même avec une hypothèse optimiste pour cette année, l'intensité carbone de l'économie chinoise devra baisser de 22% sur la période 2026-2030 pour atteindre un objectif climatique clé. Les émissions carbone en chiffres absolus ont aussi déçu les espoirs de certains analystes. Ils avaient anticipé une baisse des émissions en 2024 en raison d'un ralentissement de la croissance et au contraire de l'essor rapide des énergies renouvelables. Mais la consommation totale d'énergie a augmenté de 4,3% l'an dernier. Les nouvelles infrastructures d'énergie propre n'ont donc pas suffi à couvrir cette hausse de la demande.
La 50e cérémonie des Césars vient de se terminer. Emilia Pérez de Jacques Audiard remporte le César du meilleur film. Afzia Herzi reçoit le César de la meilleure actrice pour le thriller Corse Borgo. Le César du meilleur acteur est attribué à Karim Leclou pour son rôle dans le roman de Jim. Et puis du sport, un record du monde vient de tomber en saut à la perche. Le Suédois Armand Duplantis s'est envolé à 6,27 m. Il bat son propre record d'un petit centimètre. Cela s'est passé au All-Star Perche de Clermont-Ferrand en France.